Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission sur le cinéma qui va durer 30 minutes pendant lesquelles nous allons parler évidemment de films et nous allons pouvoir jouer un blind test autour de la filmographie de Pio Marmaille puisque Guillaume, tu vas nous parler d'un film dans lequel joue l'acteur français.
Oui, c'est Tempête de Christian Duguay.
Et tu nous parleras d'un second film très attendu.
Et c'est Avatar, hein, La Voix de l'eau, hein, le second volet de James Cameron.
Quand Tamarine, elle nous parlera d'une femme indonésienne, et moi, eh bien, je vais débuter l'émission avec Les Huit Montagnes, trois décennies d'amitié reliées à la montagne.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
À Félix von Groningen en doit La Merditude des choses et Belgica, deux films débraillés qui ont fait date, hein, et puis le mélodrame Alabama Monroe qui a fait couler des larmes à de nombreux spectateurs. Preuve que le cinéaste belge peut s'insinuer dans différents genres cinématographiques. Alors il explore maintenant la chronique intimiste en compagnie de sa compagne Charlotte van der Merch pour Les Huit Montagnes, qui a remporté le prix du jury à Cannes, alors ex aequo avec EO de Jerzy Skolimowski. Autant dire que c'est une alternative à ceux qui sont rebutés par Avatar, puisque le film n'a rien à voir avec la saga de James Cameron, bien qu'il soit toujours question de la nature, de son attrait et de sa puissance.
Qu'est-ce que sei nato?
Per fare il montanaro. Io non vado da nessuna parte.
Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de l'italien Paolo Cognetti qui nous plonge en montagne alpine du Val d'Aoste. Alors chronique, car on retrace la vie de deux enfants issus d'un milieu différent qui se sont connus dans un village de montagne. Il s'agit de Pietro et Bruno. L'un y habitait avec son père tandis que l'autre citadin y venait avec ses parents. Alors il se trouve que presque chaque année, ils s'y retrouvent jusqu'à décider de fabriquer un chalet commun. Le film est à la première personne, raconté par Pietro, qui lui est resté un citadin, parcourant le monde, quand son ami de toujours Bruno est lui resté fidèle à la montagne qu'il ne peut plus quitter. Alors cette amitié n'a rien de simple et n'est pas discutée, le film est plutôt limpide et se caractérise par une narration sans accroc et à rebours, un récit imbriqué porté par un souffle romanesque. On sent précisément que l'écriture est réussie, hein, c'est issu donc d'un roman. Pietro, qui est l'écrivain, porte les doutes, les envie, la réflexion sur cette amitié et le sens de la vie, quand Bruno semble étranger à tout cela. Il reste dans la montagne, prend une fromagerie, épouse une femme, a des enfants. Sa vie est tracée quand celle de Pietro est semée de doutes et aspire à un retour à la nature. Concernant la mise en scène, les réalisateurs restent dans la sobriété. Ici, la montagne n'est pas celle de Terrence Malick, imposante ou renversante. Hein. Elle est avant tout un lieu de vie, de rencontre, un lieu d'existence. Elle donne aussi la mesure des sentiments que traversent les personnages. On se déplace un temps dans un autre environnement, d'ailleurs, hein, au Népal, au contact d'autres montagnes. Et c'est ce qui donne le titre, d'ailleurs, au roman et au film. Il est question de la légende népalaise du mont Sumeru, au sommet parcouru de 8 montagnes plus petites. Et une question se pose alors, qui réussit le mieux sa vie, celui qui monte tout en haut du Sumeru ou celui qui fait le tour des 8 petites montagnes? La réponse sera peut-être donnée à la fin du film. Le récit est parcouru de saillies mémorielles poignantes, comme ces moments où le père de Pietro emmenait les garçons, ou un des deux, hein, seulement dans ses escapades montagneuses, des séquences auxquelles tous les amoureux de la montagne, dont je suis, eh bien, ne peuvent être que sensibles. Les trois décennies d'amitié, découpées en trois temps plus ou moins de même durée, nous prennent un peu plus de 2h30, mais c'est moins, c'est toujours moins qu'Avatar.
Questa montagna non mi ha mai fatto male.
Les 8 montagnes de Félix von Groningen et Charlotte van der Merch est en salle depuis le 21 décembre. Film construit autour de la passion des chevaux avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille, cette tempête de Christian Duguay.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va là.
Il y a vraiment un truc, Seb, avec les chevaux.
Est-ce qu'il leur parle?
En quelque sorte, mais si c'est pas avec des mots.
Avec quoi alors?
Avec ça.
Allez Belle, on va gagner. T'as vu quand je monte bien?
Ça fait des années qu'on a fait le deuil de Christian Duguay à la tête d'un film d'action. Mais lui n'a heureusement pas fait le deuil d'une mise en scène digne de ce nom, même si son public est devenu plus familial depuis des années. Alors à la manière d'un véritable auteur, le véritable artisan derrière les excellents contrats sur un terroriste, Planète Hurlante ou L'Art de la Guerre ne s'est pas renié et a su s'emparer des sujets proposés pour se les réapproprier d'une façon toujours satisfaisante. Dès les premiers plans, Tempête impressionne. Alors tout y est résumé en quelques cadrages sublimes qui trouveront leur écho et leur pleine résolution bien évidemment à la toute fin du film. On y voit un de chevaux galopants bride au vent, filmé en réflexion par rapport à la mer. La péripétie principale, que je me garde bien sûr de vous révéler, est ainsi admirablement bien métaphorisée et l'on enchaîne sur un double accouchement, femme et jument, dans la même étable. La symétrie entre l'homme et l'animal est scellée dans cette note inaugurale et met les destins en parallèle.
Zoé, arrête-toi! Vas-y doucement, Zoé!
T'as vu comment elle m'obéit bien?
Ouais, mieux que toi.
Ça s'appelle Tempête. Tempête, ça pète!
Adapté de Tempête dans un Hara de Christophe Donner et raccourci en un simple mais efficace Tempête, le film raconte l'histoire d'une famille entourée de chevaux qui les élève, les entraîne et les fait courir dans des courses hippiques. Le père, joué par Pio Marmaille, est également jockey et travaille pour un riche américain interprété par Danny Huston qui les soutient mais pense principalement au profit. Au cours du temps, nous voyons la famille grandir, vivre au rythme des saisons et des compétitions, les joies et les tristesses, des victoires et des défaites, mais aussi l'angoisse de tout perdre après trop d'échecs. La passion qu'ils ont pour les chevaux peut se retrouver particulièrement difficile à surmonter lorsqu'il faut se séparer de certaines bêtes, lorsque des coupes de budget deviennent indispensables, et surtout lorsqu'un drame va toucher Zoé, l'aînée du couple. La surdouée hippique va devoir surmonter un obstacle cruel et rude si elle veut pouvoir continuer à s'affirmer comme la meneuse et la battante qu'elle a toujours été. Ce rôle voit plusieurs actrices choisies pour l'incarner à plusieurs âges de sa vie, mais celle qui va retenir le plus notre attention et Carmen Kassovitz, oui, la fille de Mathieu Kassovitz et de Julie Manduech. Alors aussi solaire que son père est antipathique, elle s'impose sans aucun problème dans la dernière partie du film, quand Zoé est désormais une jeune femme. Elle dévore l'écran et n'a pas de mal à surplanter le jeu beaucoup plus monocore de Pio Marmaille. Idéal tampon entre les deux, Mélanie Laurent, qui incarne sa mère, sait être le pilier de ses personnages, parfois poussés jusque dans leur dernier retranchement.
Je m'appelle Pierre, je suis ton éducateur.
Tu sais, Tempête, elle est trop forte.
Elle serait bien plus performante autre montée.
Ma montre ?
J'ai plus de jambes au cas où tu l'aurais pas remarqué.
Et alors ?
Moi, je crois que t'es beaucoup plus forte que tu penses.
Oh ! J'ai plus de muscles.
Bah, t'as qu'à te muscler alors.
Qui a dit qu'on pouvait pas faire ce qu'on veut ? C'est tellement pas toi.
Je t'aime, allez, allez.
Aussi à l'aise dans les scènes d'action, si on peut les appeler comme ça, et les scènes plus intimistes, Christian Duguay n'en est pas à son premier coup d'essai en ce qui concerne les fictions avec les chevaux. Rappelons que c'est grâce au succès de Japelou, déjà une histoire de jockey et de cheval, tous les deux caractériels avec Guillaume Canet et Daniel Auteuil, qu'il s'est à nouveau imposé sur grand écran après une décennie à livrer des téléfilms de luxe pour la télévision. Alors je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce diptyque une manière qu'a Duguay d'affirmer son talent sincère et singulier et de le montrer aux yeux de tous. En exploitant tout son savoir-faire au service d'un récit parlant de bêtes de compétition, de reconnaissance, d'amour sincère de sa profession et de recherche du succès, c'est peut-être sa manière d'auteur de délivrer une métaphore intéressante sur son expérience du milieu du cinéma. Et c'est amusant, car c'est encore à cause d'un récit d'animal qu'on note une nouvelle distinction pour Christian Duguay. Il a signé la première suite de Belle et Sébastien, et il y a un mois, Clovis Cornillac, qui a signé la seconde suite de Belle et Sébastien, sortait lui aussi un bon film populaire, Couleur de l'incendie, qui ambitionne avec talent et ampleur de séduire toute la famille. Espérons que la famille, elle, réponde présent à ce très joli petit film qui saura donner de la joie en ces fêtes de fin d'année. Tempête n'a rien à envier aux productions d'autres pays qui ont su faire une véritable institution de ce type de récit et saura toucher un large public. Christian Duguay, que j'ai eu la chance de rencontrer au Cinémed à Montpellier un peu plus tôt cette année, et dont la projection en avant-première avait fait sale comble, m'avait confié être très très content de ce film et que ses producteurs le sont également. Donc tout le monde espère un beau succès public, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Tempête de Christian Duguay avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille nous donne l'occasion de jouer à un blind test qui concerne seulement Pio Marmaille.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le principe du blind test, si vous ne le connaissez pas, eh bien, il suffit de reconnaître 5 titres de films en écoutant des extraits. Et on commence avec le premier extrait.
On m'a volé 8 ans de ma vie. J'ai fait 8 ans en prison. On m'a humilié. Tabassé. Insulté. Compromis. On m'a volé ma jeunesse. Pour rien. Hein. J'étais innocent. Je sais, tout le monde dit ça, mais moi, c'est vrai. Et depuis que je suis sorti, je fais n'importe quoi. Principalement du mal aux gens. Beaucoup de mal.
Trouvé, Manu.
C'est en liberté de
Pierre Salvadori.
Pierre Salvadori, voilà, j'avais un trou. Voilà, tu m'aides.
Film sorti en 2018, film vraiment extraordinaire. Yvonne Santi, Adèle Haenel, est veuve d'un lieutenant de police. Elle découvre que ce dernier, considéré comme un héros, était corrompu. Vraiment jusqu'à la moelle et sans scrupule. Et elle rencontre Antoine Pio Marmaille, injustement condamné à sa place et très perturbé par ses 8 années de prison.
C'est donc un dialogue entre Pio Marmaille et une vague, apparemment.
C'est... Ah oui, on entend la mer au loin, oui, parce qu'effectivement, ils sont, je crois, du côté de Marseille. Oui. 775 000 entrées en France et 9 nominations au César, mais aucun prix. Voilà. Pour Pierre Salvadori, un des plus grands orfèvres de la comédie française. Deuxième extrait de ce blind test concernant la filmographie de Pio Marmaille.
J'ai un petit service à te demander. Ah. T'as besoin de combien ? Non, j'ai pas besoin de fric, j'ai juste besoin que tu m'aides à trouver un boulot, un mois, 2 mois maximum, histoire de rentrer un peu de fric pour financer les travaux, c'est tout.
Un resto, comment tu fais ?
Bah, le resto, il peut tourner tout seul, et puis Carole est là-bas.
Ta copine ?
Ouais.
Et tu veux que tu retrouves quoi comme boulot ?
Vendeur. Je suis pas bon, tu sais, c'est pas non plus...
C'est pas non plus quoi ?
Je sais pas.
Tu te vois là-dedans ?
Alors, on lui propose d'être vendeur au personnage de Pio Marmaille. Alors, c'est pas étonnant que vous n'ayez pas trouvé ce film. Moi, il se trouve que je l'avais vu, mais il a fait que 56 000 entrées en France. Donc autant dire qu'il n'a pas forcément fonctionné. C'est Vendeur de Sylvain Desclous, sorti en 2016. Serge est l'un des meilleurs vendeurs de France. Ce n'est pas le cas de son fils Gérald, donc incarné par Pio Marmaille, qui vient pourtant lui demander de le pistonner pour obtenir provisoirement un emploi de vendeur afin de sauver son restaurant en faillite. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Pio Marmaille.
Donc c'est vous qui l'avez la petite ?
Oui.
Vous la lavez comment ? Avec un gant ? Avec vos mains ?
Pourquoi me demandez ça ?
Vous la lavez comment ?
Je la lave avec de l'eau, qu'est-ce que vous insinuez là ?
Pourquoi vous voulez pas répondre ?
Attendez, je vous appelle, c'est pas pour entendre ce genre de conneries, ok ? J'ai assez de problèmes comme ça.
J'essaie de vous aider. Et pour vous aider, je dois comprendre exactement tout ce qui s'est passé. Vous n'avez rien à cacher ?
Mais non, bien sûr que non.
Alors répondez-moi, s'il vous plaît.
C'est elle qui se lave, d'accord ? Moi, je lui dis, n'oublie pas les pieds, le dos, les fesses. Après, je la rince, je l'aide, quoi. Je la touche comme un père qui lave son enfant. Voilà.
C'est presque trouvé par toi, Manu.
Mais j'ai pas le titre, j'ai juste le nom de la réalisatrice.
Oui, qui est ?
Qui est Audrey Diwan.
Oui, pour un film sorti en 2019, Mais vous êtes fou. Voilà, ça c'est le titre du film avec Pio Marmaille et Céline Salette qui jouent sa compagne. Roman aime Camille autant qu'il aime ses deux filles, mais il cache à tous un grave problème d'addiction à la cocaïne qu'il consomme quotidiennement depuis plusieurs années. Et un jour, une de ses filles subit une crise d'épilepsie grave. C'est alors qu'on apprend que toute la famille est contaminée par la cocaïne. C'est un film vraiment très bien réalisé. Et donc en 2021, Audrey Diwan a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise pour son film L'Événement. Mais vous êtes fou à remporter 101 000 entrées en France.
Je suis déçu, c'est pas un biopic de Benny B du coup.
Ah, mais vous êtes fou. Oui, il faut être de cette génération. Merci, Guillaume. Quatrième extrait donc de ce blind test consacré à Pio Marmaille.
Chouchou, t'as été victime d'une attaque homophobe.
Comment ça ?
Le type s'est pas attaqué à toi par hasard. Il s'est dit, il est gay, donc il est plus intelligent, donc il est successful, donc il est riche. C'est la cible idéale.
Bon, non, c'est peut-être un peu loin, mais il a raison, faut porter plainte.
Mais il a jamais dit ça. Gay connection. Tu peux pas comprendre.
Ah, je peux pas comprendre.
Bah, non, tu n'es pas très Lady Gaga.
Bah, ce qui veut dire, c'est que t'as jamais été un PD en souffrance. Arrête. Par exemple, tu fais pas la Gay Pride.
Arrête, on est au 21e siècle, excuse-moi, à ce que je sache, les hétéros défilent pas sur des chars avec des slips en cuir, non? Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait le faire?
Alors, c'est une comédie, ça n'a pas été trouvé en studio. Peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez trouvé. Comédie, Jérémy, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d'Anna, une ravissante suédoise, aussi drôle qu'attachante. Le début d'un conte de fées, mais rien n'est moins sûr, car Jérémy est sur le point de se marier avec Antoine. Et oui, il est homosexuel. Donc, c'est toute première fois de Noémy Saglio et de Maxime Govard, réalisé en 2015. 420 000 entrées en France quand même, hein, pour ce film que vous n'avez pas vu, Guillaume et Manu. Dernier extrait de ce blind test consacré à Pio Marmaille.
Qui est violent? Qui est violent? Franchement, sortez un peu de votre bulle, je sais pas, vous avez peut-être pas de raison d'être en colère. Évidemment, pour vous, les fins de mois, ça existe pas. Mais pour moi, les gens autour de moi, on vit pas. Hein. On survit. Alors évidemment, ça vous passe complètement au-dessus. Si ça vous passe au-dessus, vous avez rien, vous avez tout, vous avez besoin de rien.
C'est en
plus, vous me faites la morale parce que vous avez voté Macron.
Attendez. Mais attendez, qui vous dit que j'ai voté Macron?
Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Vous n'avez pas voté Macron? Hein? Ah non, vous avez voté Fillon, non, c'est ça?
Mais arrêtez de me faire chier.
Mais je vous tâche, je vous pose une question.
Pour qui vous avez voté, vous?
Mais demandez-moi pour qui j'ai voté.
Vous avez voté pour la blonde,
ben
c'est
voilà,
ça?
Et ben voilà, quand on a un prolo, on vote Le Pen, c'est ça? Et si je l'ai pas voté, vous allez me dire que c'est pareil que si j'ai voté pour elle? Non?
Pio Marmaille est exceptionnel dans ce film.
Et c'est donc la fracture de Catherine Corsini.
Au cours d'une nuit hivernale de 2018, Raph, au bord de la rupture avec Julie, se fracture le bras et se retrouve aux urgences d'un grand hôpital parisien. Dans le même temps, Yann, donc Pio Marmaille, arrive blessé d'une manifestation de gilets jaunes. C'est un film avec Valeria Bruni, Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaille qui a réuni 275 000 entrées en France et qui n'a malheureusement obtenu aucun prix à Cannes. C'était donc La Fracture, c'était le dernier film de ce blind test consacré à la filmographie de Pio Marmaille. Nana, qui vit avec un homme riche qui la comble et la trompe, le confie ses secrets passés et présents à sa rivale au point d'imaginer un nouvel avenir. C'est Une femme indonésienne de Camilla Andini.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Fin des années 60 à Bandung, principale ville de la côte ouest de Java. Nana est une femme qui garde enfouie son passé difficile. Elle s'est mariée en seconde noces avec un riche cultivateur de thé et vit une existence de femme au foyer, élevant ses enfants dans un environnement bourgeois. Elle sait que son mari la trompe et elle sait que les autres femmes de leur caste la jugent et la considèrent comme n'appartenant pas à leur monde. Mais elle préfère se taire plutôt que de risquer de perdre le confort qu'elle a si durement gagné. En rencontrant l'une des jeunes maîtresses de son mari qui va devenir son amie, Nana va apprendre enfin à vivre libre. Le troisième film de Camilla Andini est lié à deux périodes bien particulières de l'histoire de l'Indonésie. Les années post-1945, tout d'abord, années au cours desquelles se déroule le début du film, 45 étant l'année de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie suite à la défaite du Japon. Et cette année signera également le début d'une lutte diplomatique armée contre les Pays-Bas qui souhaitent récupérer leur colonie. Mais surtout, l'époque des massacres de 65, très peu connus du grand public occidental, qui font pourtant partie des pires génocides du XXe siècle. Les milices du Parti national indonésien et les milices du Parti musulman, aidées par l'armée, lancent en 65 une vague de répression sanguinaire, pensant que le pays entier va basculer du côté communiste. Il faut savoir qu'à l'époque, le PKI, Parti communiste indonésien, était le troisième plus important au monde, après la Chine et la Russie. Les personnes communistes ou étant dénoncées comme telles vont être massacrées, le bilan s'élevant à un nombre considérable, quoique très flou, entre 500 000 et 3 millions de victimes.
Une femme indonésienne, indépendamment de ses grandes qualités, a une légère faiblesse tout de même. C'est justement sa temporalité indéfinie qui peut le rendre un petit peu difficile d'accès lorsque l'on ne connaît pas un minimum l'histoire de l'Indonésie, qui est malheureusement assez peu transmise en Occident. Le prologue du film nous laisse comprendre que Nana a vécu de graves traumatismes en perdant son père et son premier mari 15 ans auparavant, sans que l'on sache précisément quels en sont les liens avec la situation politique qui demeure en arrière-plan. Le titre initial du film, Before, Now and Then, laissait davantage sous-entendre à quel point le passé, le before donc, est omniprésent dans la psyché de l'héroïne qui va décider ensuite ou non de façonner son avenir par ses choix. Le titre « Une femme indonésienne » choisie par la distribution française laisse imaginer lui une histoire d'amour exotique. En réalité, le film est bien plus davantage que cela. Il mêle une trajectoire personnelle, individuelle aux événements qui ont secoué et transformé l'Indonésie. Le scénario raconte l'histoire d'une femme entre guillemets « ordinaire », mais il a une portée universelle car l'intime est toujours politique. La réalisatrice Camila Andini, dont c'est le troisième film, parle ici de la place de la femme dans la société indonésienne, d'une émancipation possible mais douloureuse lorsque l'on a été conditionné à ne vivre que dans un cadre marital et d'une sororité libératrice. Dans le rôle de la jeune maîtresse, Laura Bazzucchi, sacrée meilleur second rôle à la Berlinale cette année, est excellente mais trop peu visible. On est même un peu déçu, à vrai dire, de ne pas l'avoir davantage. La comédienne principale, Happy Salma, étant elle de tous les plans. Happy Salma, qui déjà a un nom qui signifie joyeux, hein, est une personnalité assez connue en Indonésie. Elle a d'abord été une mannequin, puis une actrice populaire. Elle a ensuite épousé un prince de Ubud. Aujourd'hui, à 42 ans, elle est également productrice et notamment de ce film-ci, d'une femme indonésienne. Film qui, même s'il se déroule il y a plus d'un demi-siècle, ça affirme une réelle modernité. Parler du carcan patriarcal qui étouffe les femmes indonésiennes, Camila Andini passe par leur corps, principalement celui des femmes riches qui est ici enserré dans un linge qu'on enroule autour de leur taille. Leurs pas sont rendus difficiles par les talons qu'elles doivent porter même chez elles et par le sarong qui maintient leurs hanches. Le carcan patriarcal est également perpétré par les autres femmes qui jugent et médisent et également par le chignon traditionnel dont la symbolique traverse le film de part en part et qui sert, comme le dit l'héroïne, à cacher ses secrets. Si le rythme du film est lent, c'est en grande partie dû à la gestuelle de son interprète principale qui laisse entrevoir par ses gestes très mesurés à quel point ses vêtements sont une enclave pour les femmes qui ne peuvent ni marcher vite, ni s'accroupir et encore moins courir. Une enclave dont elle va, au contact de sa nouvelle amie, peu à peu se libérer jusqu'à se jeter à l'eau, au sens propre du terme, dans une cascade. Le film a l'intelligence de ne pas nous raconter de façon trop simpliste l'histoire d'une libération, demeurant dans un endroit de vérité et de crédibilité, puisque, comme on se l'imagine bien, les années 60 en Indonésie étaient assez peu propices tout de même à la libération sexuelle des femmes. Petit bémol, on a le sentiment, hein, dans une femme indonésienne, d'une très forte influence Wong Kar-wai, période In the Mood for Love, à cause entre autres d'une musique lancinante très très présente, hein, qui évoque le thème principal. Mais cette musique dans In the Mood for Love, très mélancolique, était présente uniquement de façon ponctuelle pour souligner certaines scènes où les non-dits étaient plus importants que les dialogues. Dans une femme indonésienne, la musique est un peu envahissante au point parfois de nuire à l'intrigue en surlignant un poil trop l'action. Une femme indonésienne de Camila Andini demeure un film intime, profond, qui explore subtilement l'amitié féminine.
Une femme indonésienne est en salle depuis le 21 décembre. 250 000 entrées dès son premier jour d'exploitation, mais de quel film peut-il s'agir ? Eh bien, c'est le deuxième opus d'Avatar qui était très attendu, et notamment par toi, Guillaume, puisque tu l'as vu deux fois.
Et j'étais déjà dans la salle, ce fameux premier jour, donc je suis comptabilisé dedans, parce qu'il n'y a pas eu d'avant-première, tellement le succès était sûr et assuré.
Et donc, on a dû attendre ce moment-là pour en parler, et c'est maintenant.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Papa, tu dois penser que je suis folle, mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près.
Et comment sont les battements de son cœur ?
Avec James Cameron, rien n'est simple et rien n'est fait comme chez le voisin. Hein. Alors que n'importe qui aurait capitalisé sur le succès historique du premier Avatar en enchaînant directement sur la suite, lui a pris son temps. 13 années se sont passées depuis que le premier film est devenu le plus gros succès de tous les temps au box-office et que Cameron signe pour la deuxième fois consécutive la meilleure performance de l'histoire en termes de fréquentation dans les salles. Alors n'importe quel producteur, n'importe quel exécutif de studio aurait tout fait pour capitaliser dessus. C'est bien évidemment sans prendre en compte la volonté de celui que l'on surnomme Iron Jim, celui qui peut envoyer tout le monde bouler sur le simple prétexte qu'il a signé les deux plus gros succès de tous les temps. Bon, d'accord. Au milieu du classement, il y a un Marvel qui s'est glissé, mais on va continuer à vous parler de cinéma, du vrai, de celui qui mérite son succès, car l'attrait qu'il procure vient justement de ce qu'il fait de la salle, du grand écran, cet écran au service d'ambitions toujours plus vertigineuses. Des ambitions, oui, mais des ambitions jamais vaines ni stériles, car, et nous allons le voir chez Cameron, le grand est toujours au service du petit. Et dans Avatar, la voix de l'eau, il est plus que jamais au service de l'intime, ici cristallisé par la famille de Jake Sully.
On ne peut vous laisser importer votre guerre ici.
Des parias, c'est tout ce qu'ils voient.
Je te vois.
Avatar, la voix de l'eau, reprend donc l'histoire de Jake Sully là où il l'avait laissé et... Eh bien, je vais m'arrêter là dans le résumé, ou à peu près, car si James Cameron lui-même a décidé de ne rien révéler ni raconter de précis dans les bandes-annonces, ce n'est pas pour rien. Avatar la voix de l'eau, ça se vit, ça se ressent plus que ça ne se raconte, et surtout ça s'incarne. Ce point me plaît énormément, car c'est ici qu'on arrive à cerner l'humain derrière ce réalisateur qui n'arrête pas de casser les records depuis plus de 30 ans et qui, au-delà de son immense talent et de sa ribambelle de film culte, ne nous semblait plus trop humain. La voix de l'eau nous permet de voir un Cameron en apparence assagi et surtout plus en connexion avec les aspirations des mortels. En 13 ans, comme beaucoup de spectateurs, le réalisateur a grandi, a fondé une famille et a changé son mode de vie et son regard sur le monde. En résultat, une première partie folle, mêlant images métal hurlant à la Moebius, pour nous intégrer dans le quotidien d'une famille d'extraterrestres. C'est aussi bien évidemment trompeur, car lorsque le film entraîne ses personnages sur le sentier inexorable de l'affrontement, le drame familial, politique et donc shakespearien éclate toutes ces bulles de bonheur et de quiétude et plonge le spectateur dans une radicalité totalement anarchique et jusqu'au boutiste telle qu'on l'a rarement vu dans un blockbuster. Alors il n'y avait décidément qu'un mec comme Cameron pour faire du subversif sauvage au sein de la firme aux grandes oreilles, Mickey ayant bien prouvé tout au long de cette longue année son assouvissement le plus total à la loi du plus consensuel pour amasser le plus de bifetons. Alors j'ai une pensée émue pour tous ces gamins qui vont comprendre en décalage ce qu'ils viennent de prendre pour un simple divertissement naïf lorsqu'ils verront des femmes guerrières fièrement afficher leur ventre arrondi par la maternité alors qu'elles bandent leur arc en direction de l'ennemi.
La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort.
Outre le fait d'avoir le plaisir et le frisson d'aller dans une salle de cinéma pour vivre un spectacle total qui ne peut exister que sur grand écran et qui est pour de bon du jamais vu, et le fait qu'Iron Jim reste bien évidemment le roi du monde, il y a le personnage de Kiri. Kiri, c'est la quintessence de l'art et des possibilités de la performance capture telle qu'elle a été conçue par Robert Zemeckis pour affranchir l'acteur de toute contrainte physique et lui offrir, comme son nom l'indique, toute la latitude possible pour être le personnage qu'il incarne. On se doute que dans un film qui s'appelle Avatar et qui joue jusque dans les moindres recoins de sa mise en scène sur l'immersion, c'était capital. Kiri, c'est l'une des plus belles performances donc de Sigourney Weaver et l'ultime, à ce jour, manifestation d'un rêve technologique qui aura, dans la douleur, accoucher d'un miracle artistique propre au cinéma. Rendez-vous compte hein, qu'il est désormais possible pour une actrice de 73 ans de jouer en l'étant littéralement à l'écran, hein, j'entends, hein, une enfant, puis une ado, sans que cela ne pose un problème de physique, ni que la magie de l'illusion ne soit, en quelque manière que ce soit, altérée. Donc de Georges Méliès à Abel Gance, en passant bien évidemment par Robert Rodriguez et James Cameron, hein, pensons à tout ce que l'on doit à ces pionniers et visionnaires qui ont œuvré et qui œuvrent tous les jours pour développer la grammaire cinématographique et faire en sorte que le 7e art soit et reste une langue vivante, ben, apte à nous conter les plus belles histoires. Je termine en citant la phrase hein, qui résume le film, hein, et à plus large échelle, hein, ben, l'entreprise de Cameron, c'est ça la voix de l'eau, hein, elle n'a ni début ni fin. Avatar, la voix de l'eau, ben, tout comme Boyhood de Richard Linklater, ben, ce n'est rien de moins qu'une histoire humaine, mais vue à travers des yeux extraordinaires, fussent-ils humains ou aliens.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année avec un immense blind test sur les films sortis en 2022.